Oleg Gordievsky. Rarement un espion a eu une influence aussi décisive sur le cours de l'histoire. C'était au temps de la guerre froide. De 1974 à 1985, cet officier du KGB a espionné au profit des Britanniques et a fourni à l'Ouest, par conviction et au risque de sa vie, des milliers d'informations secrètes capitales. Notamment en 1983, quand la tension Est-Ouest était extrême, cet agent double a permis au monde d'échapper à une guerre nucléaire. Un risque pris très au sérieux. France 2, le 14 novembre 1983.
La Troisième Guerre mondiale risque-t-elle d'éclater? Je crois que personne ce soir ne peut répondre à une telle question. Mais en revanche, tous les experts sont d'accord pour dire que la fin de l'année 83 et l'ensemble de l'année 84 seront parmi les plus difficiles de ces dernières décennies. Je parle d'un conflit en Europe. Comment pourrait éclater une guerre? Vous le savez, de part et d'autre du rideau de fer, des centaines de milliers d'hommes se font face, des milliers de mégatonnes pourraient un jour ou l'autre, peut-être demain d'ailleurs, déclencher le feu nucléaire et l'apocalypse sur notre univers.
France Inter, Stéphanie Duncan, Espion, une histoire vraie.
Oleg Gordievsky, c'est aussi l'histoire de la plus spectaculaire exfiltration de la guerre froide. En 1985, alors qu'il est à Moscou, il comprend que le KGB l'a démasqué et qu'il va être éliminé. L'agent double, qui doit fuir l'Union soviétique au plus vite, déclenche le plan d'exfiltration prévu par les services secrets britanniques. 19 juillet 1985 à Moscou. Il est 16h quand Oleg Gordievsky, 46 ans, quitte son appartement de la perspective Lénine. Vêtu d'un pantalon de sport, d'un sweatshirt et de vieilles chaussures marron, un sac en plastique presque vide à la main, il part faire son jogging. C'est un bon coureur. Depuis des années, il s'entraîne. Au passage, il salue le concierge, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, il n'a que 90 minutes pour semer les agents du KGB et à la gare, sauter dans le train de nuit pour Leningrad. C'est le début de l'opération Pimlico qui, si tout se passe bien, doit le faire sortir de l'Union soviétique. À peine sorti de son immeuble, Oleg Gordievsky se met à courir. Il le sait, s'il est arrêté, il mourra. Et s'il réussit, il part pour toujours, laissant derrière lui sa femme, ses enfants, ses parents, son pays. Dans sa jeunesse, rien, mais vraiment rien, ne prédestinait Oleg Gordievsky à travailler un jour pour l'Ouest. Car avant même sa naissance en 1938, l'espionnage soviétique fait partie de l'ADN familial. Son père, Anton, appartient au NKVD, l'ancêtre du KGB. En 1936, il est de ceux qui se portent volontaires pour liquider les ennemis du peuple, lors de la grande terreur ordonnée par Staline.
Vous pouvez compter sur le fait que le camarade Staline pourra accomplir son devoir devant le peuple. Que les députés soient envers les ennemis du peuple, des combattants intrépides, impitoyables, comme l'était Lénine. Et qu'ils aiment leur peuple, comme l'aimait Lénine.
En 1937-1938, plus de 700 000 citoyens soviétiques sont condamnés à mort et 800 000 autres envoyés au goulag. Un crime de masse où Anton Gordievsky a sa part de responsabilité. Mais là-dessus, il gardera toujours le silence. Le NKVD a toujours raison, explique-t-il à sa famille. C'est donc en toute logique que les fils d'Anton, Vassili puis Oleg, entreront plus tard au KGB. Mais dans cette famille en apparence sans faille, il y a peut-être un point faible, ou fort selon les points de vue. C'est la mère d'Oleg. Même si elle se garde d'exprimer toute forme de critique du système, Olga ne prendra jamais sa carte du parti. Et la grand-mère d'Oleg, secrètement, est croyante.
Cette opposition silencieuse va de manière assez inconsciente façonner le jeune homme. Très tôt, par exemple, il intègre le fait qu'en Union soviétique, on peut dire une chose et en soi-même en penser une autre. Sans le savoir, il porte déjà en lui le futur agent double. En 1953, Oleg, 15 ans, sent un vent de liberté se lever sur l'URSS.
Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place Rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne ? La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs ?
Mais le dégel ne dure pas. En 1956, l'écrasement par l'armée rouge du soulèvement de Budapest sonne comme un rappel à l'ordre à ceux qui auraient mal compris. L'Union soviétique reste l'Union soviétique. L'événement trouble bien un peu notre bon élève, mais ne l'empêche pas d'intégrer la meilleure université du pays qui forme l'élite. Doté d'un sens de l'analyse et d'une mémoire phénoménale, il saura s'en servir en temps voulu. Oleg est également très doué pour les langues. Et en 1961, ce qui devait arriver arrive, Oleg Gordievski entre en formation KGB. Pour son premier stage, il est envoyé à Berlin-Est, occupé par les troupes soviétiques. En guise de dépaysement, il va être servi, car le lendemain même de son arrivée, le 13 août 1961.
Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces deux zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Dans la nuit, le gouvernement de Pankow, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, qui, en 10 ans, lui avait enlevé 2 millions d'hommes, avait décrété la fermeture des communications entre les deux zones. Et sur 40 km de longueur, ces 40 km par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. Rue barrée, pont barré, métro arrêté. Il ne restait sur ces 40 km que 18 points de passage où le contrôle était sévère. L'Allemagne de l'Est se cadenassait.
Oleg Gordievski voit avec effroi le mur de Berlin s'édifier sous ses yeux. Le paradis socialiste serait-il en réalité une prison ? Mais encore une fois, il ne lui vient pas à l'esprit de désobéir, car son destin est tracé. Son destin, qui l'année suivante, le conduit à l'Institut de la Bannière Rouge, le centre de formation du KGB, dissimulé en pleine forêt au nord de Moscou. Comme un certain Vladimir Poutine dans les années 80, Gordievski y apprend les multiples techniques qu'un maître espion se doit de connaître. Recrutement des agents, codage, combat à main nue, écriture secrète, déguisement et filature. Un art où il va exceller et qui un jour lui sauvera la vie. En 1963, enfin, Oleg Gordievski prête serment au KGB.
Je jure de défendre mon pays jusqu'à ma dernière goutte de sang et de ne jamais divulguer les secrets d'État.
Et comme il se doit, le même jour, il prend sa carte du Parti communiste. Mais ça ne suffit pas. Pour obtenir un bon poste au KGB, il y a une autre étape nécessaire. Se marier. Ce que l'ambitieux Oleg s'empresse également de faire. Il épouse Elena, une jeune femme qu'il croit aimer, qui surtout partage son désir de sortir d'Union soviétique, ce qui est interdit aux citoyens lambda. L'opération mariage est une réussite puisqu'en 1966, Oleg obtient sa première affectation, Copenhague.
Ils viennent de partout pour la voir. Souvenir des contes d'Andersen, symbole du Danemark, pays calme, première étape scandinave. 490 îles, une péninsule, le Jutland, 5 millions d'habitants, 1,5 million à Copenhague, la capitale, c'est le Danemark. Un peuple affable et commerçant. À première vue donc, un paradis sans histoire.
L'arrivée à l'Ouest, quel choc pour le couple. De belles maisons, des magasins bien achalandés, des Danois souriants, en bonne santé et libres, politiquement et sexuellement, du moins en ont-ils l'air. Un vrai film en couleur après le noir et blanc soviétique. Ce qui n'empêche pas Oleg de remplir consciencieusement sa mission, espionner l'Ouest. C'est lui qui recrute les informateurs dans la population danoise et dirige les Nielegalni, les illégaux, des agents russes dormants qui vivent et espionnent à l'Ouest sous de fausses identités. Il restera en poste à Copenhague jusqu'en 1978. Les années cruciales, où il voit sa relation avec Elena s'étioler et se réduire à ce qu'elle est vraiment, un arrangement à la sauce KGB. Les années aussi où l'agent Gordievski, en son fort intérieur, va rompre définitivement avec sa patrie et devenir un agent double, autrement dit, un traître.
Tout de suite, un flash de dernière minute. Les chars soviétiques sont à Prague, où est réuni le comité central du Parti communiste tchécoslovaque. Donc, coup de force en Europe de l'Est, les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit.
Moscou affirme que c'est à la demande d'hommes d'État tchécoslovaques pour protéger le système socialiste.
C'est aux premières heures de l'aube que la radio de Prague a annoncé la nouvelle, en précisant que cela s'était passé sans que le président, le premier ministre ou les membres de l'Assemblée nationale en aient été avertis.
Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, les chars du pacte de Varsovie ont mis fin brutalement au printemps de Prague, cette tentative originale qui visait à instaurer à l'Est un socialisme à visage humain. Le monde est sous le choc. Oleg Gordievski aussi. Sans doute voit-il à la télévision danoise ce jour-là les images des jeunes tchèques en larmes tentant de fraterniser avec les soldats russes. Mais c'est peine perdue, l'hiver règne à nouveau à Prague. Bouleversé, Oleg téléphone à sa femme et dans un flot de larmes et de colère, lui lâche tout le mal qu'il pense de l'Union soviétique. Une imprudence insensée de la part d'un agent du KGB. En réalité, l'acte est parfaitement calculé. Oleg, qui sait que toutes les lignes des agents soviétiques sont écoutées par le renseignement danois, souhaite ainsi informer l'Ouest qu'il est prêt à collaborer. Mais curieusement, ce message restera lettre morte. C'est 5 ans plus tard, et par un biais pour le moins inattendu, qu'Oleg Gordievski entrera en contact avec l'Ouest, à l'occasion d'une partie de badminton. Hiver 1973. Ce matin, comme tous les matins, Oleg Gordievski s'entraîne au badminton dans un club de la banlieue de Copenhague. Alors qu'il joue, il aperçoit soudain un homme en manteau de tweed et chapeau entrer dans le gymnase. Il le reconnaît immédiatement. C'est Richard Broomhead, le chef à Copenhague de la station du MI6, les services secrets britanniques. Et si l'espion anglais est là, ce n'est pas un hasard. Il est venu pour le recruter. Lorsque la partie se termine, l'anglais s'approche lentement du russe.
Bonjour.
Bonjour.
Nous nous connaissons, je crois. Pourrions-nous nous retrouver un de ces jours pour bavarder?
Oui, pourquoi pas.
Dans un lieu discret. Pour déjeuner, ça vous irait?
Parfait.
Oleg Gordievski le comprendra plus tard. Cela fait 3 ans déjà que le MI6 s'intéresse à lui. En 1970, un espion tchèque passé à l'Ouest, Stanislav Kaplan, a donné au MI6 le nom d'Oleg. Cet ami de jeunesse s'est souvenu de leur conversation à Moscou quand les deux étudiants partageaient leurs doutes sur l'URSS. Le MI6 a donc compris que Gordievski n'est pas un soviétique borné, mais peut-être un élément susceptible de collaborer. D'autant plus intéressant qu'entre-temps, Oleg a pris du galon. Il dirige aujourd'hui l'antenne du KGB à Copenhague. Le MI6 lui a même donné un nom de code, Rayon de Soleil, Sunbeam. Gordievski, soucieux de se couvrir, faussement naïf, s'empresse d'informer ses supérieurs de l'invitation de l'agent anglais. « Allez-y », lui répond le KGB. Qui, bien sûr, est à 1000 lieues d'imaginer que leur agent ne désire qu'une chose, travailler pour l'Ouest. Comme convenu, Gordievski et Broomhead se retrouvent pour déjeuner dans un restaurant élégant de Copenhague. Un premier contact où chacun marche sur des œufs. On parle histoire, culture, mais le ton est amical. Et quand à la fin du repas, l'Anglais demande au Russe s'il parlera de cette rencontre au KGB, il répond
« Bien sûr, mais je rédigerai un rapport neutre. »
Par ce simple mot, Gordievski vient d'envoyer un message clair au MI6. Pourtant, pendant des mois, c'est à n'y rien comprendre, Oleg n'aura plus aucune nouvelle de Bromhead. Jusqu'au jour d'octobre 1974, où celui-ci reprend contact. Cette fois, comme un couple qui a longtemps attendu et s'apprête à commettre un adultère, les deux espions ne vont pas par quatre chemins. Bromhead lui demande s'il est prêt à lui fournir des informations et à le retrouver régulièrement dans une planque. Son interlocuteur, dans un large sourire, acquiesce. Oleg Gordievski vient de signer avec les services secrets britanniques. Quel soulagement pour lui, quelle libération! Comme si le poids de toutes les années de frustration venait de s'envoler. Mais en devenant agent double, Gordievski s'engage, il le sait, dans une vie compliquée, schizophrénique même. Informer le MI6 et en même temps continuer d'espionner au KGB le plus efficacement possible pour ne pas éveiller les soupçons. Une vie d'autant plus stressante que l'agent double a également une double vie amoureuse. Gordievski, qui ne s'entend plus avec Elena, a une maîtresse, Leila, qui elle non plus ne sait rien de son activité pour le MI6. Bref, il ment à tout le monde. Le moindre faux pas, il le sait, peut lui coûter la vie. Le KGB ne pardonne pas aux traîtres. En 1962, par exemple, Oleg Penkovski, un agent du KGB ayant trahi pour l'Ouest, aurait terminé à Moscou, brûlé vif dans un four. Voilà qui est dissuasif. Mais pour Gordievski, sa vie désormais a un sens. Mettre fin au système soviétique, favoriser la démocratie et redonner l'espoir au peuple russe qui souffre.
Les affiches rappellent sans cesse à la population que sa vie doit être fondée sur un travail plein d'enthousiasme pour la société soviétique. Mais il faut avouer que l'indifférence, à défaut de la dissidence, constitue la réponse du plus grand nombre à cette propagande officielle. Ces nouveaux consommateurs ont bien du mal à satisfaire leurs désirs. D'abord parce que leur pouvoir d'achat, s'il a progressé, n'est que la moitié d'une autre. Et ensuite parce que les produits de qualité sont rares et très chers. Résultat, les femmes font la queue 2 heures par jour en moyenne pour acheter par exemple des choux ou 1 kilo de concombre, les seuls légumes frais en vente en ce moment à Leningrad. Cet écart entre les aspirations du peuple et la rareté des marchandises favorise la corruption, comme les vols de pièces détachées dans les usines et le marché noir pour les livres et pour les disques. En attendant, il rêve dans les couloirs du métro au bien-être des travailleurs dont le Parti communiste a fait son programme.
Une fois par mois, dans un appartement de la banlieue de Copenhague, Gordievski retrouve son officier traitant anglais, auquel, pendant des années, il va fournir des milliers d'informations sur le KGB. Chaque conversation est enregistrée sur un magnétophone, la cassette est ensuite envoyée à Londres pour être écoutée. Au MI6, on se frotte les mains. Jamais les services secrets britanniques n'ont obtenu autant d'informations et de documents top secrets. À l'heure du déjeuner, Gordievski sort de son bureau avec les microfilms qu'il vient de subtiliser et sur une place de Copenhague, au milieu de la foule, les glisse discrètement dans la main ou dans la poche de son correspondant. Celui-ci n'a que 30 minutes pour filer dans une planque du MI6, s'enfermer dans le noir, photographier les microfilms et ressortir pour les rendre à Gordievski, qui, une fois retourné à son bureau, les remet à leur place. Mais en 1978, Gordievski est rappelé à Moscou. Sa collaboration avec le MI6 est alors mise en sommeil. Mais l'agent russe s'inquiète. Que se passerait-il s'il est démasqué par le KGB ? En URSS, il n'aura aucun moyen de fuir. Le MI6 met alors au point pour lui le plan d'exfiltration qui un jour lui sauvera la vie, l'opération Pimlico, du grand roman d'espionnage. Tous les mardis à 19h30 précises, les officiers britanniques en poste à Moscou devront surveiller une certaine boulangerie du centre-ville. En cas d'urgence, Gordievski devra apparaître devant la boulangerie, coiffé d'une casquette grise et tenant à la main un sac en plastique du supermarché américain Safeway. L'officier anglais devra alors passer devant lui en mangeant une barre chocolatée, un Mars ou un Kit Kat, ça ne s'invente pas. Un signal qui doit déclencher l'exfiltration vers la Finlande de Gordievski, caché dans le coffre d'une voiture diplomatique.
Stéphanie Duncan, espion, une histoire vraie.
En 1978, la mort dans l'âme, Gordievski part donc à Moscou, peut-être pour toujours. En réalité, il n'y restera pas longtemps. Juste le temps de divorcer d'Elena et de se marier avec sa chère Leïla, qui bientôt lui donnera 2 enfants. Et en 1981, l'officier du KGB, qui croule sous les éloges, reçoit une promotion inespérée. Il est nommé à l'antenne de Londres. Mais avant de partir, l'agent double apprend par cœur les noms de tous les agents soviétiques qui espionnent en Angleterre. C'est donc la tête bien pleine que Gordievski, avec femme et enfant, atterrit à Londres le 28 juin 1982. À Londres, bien sûr, Gordievski reprend contact avec le MI6, qui, on s'en doute, ne cache pas sa joie de le retrouver. Et il reprend le rythme des rendez-vous secrets. Une fois par mois, à l'heure du déjeuner, il se rend dans une planque du quartier de Bayswater pour retrouver les espions anglais. Autour d'une tasse de thé, Gordievski leur délivre toutes les informations qu'il avait apprises par cœur à Moscou. Le MI6 n'en revient pas. Jamais les services secrets britanniques, dans toute leur histoire, n'ont obtenu autant de renseignements sur le bloc de l'Est. Gordievski dévoile aussi les noms de citoyens anglais rémunérés par les soviétiques. Le cas le plus incroyable, le plus sensible aussi, est celui d'un certain Michael Foote, qui n'est autre que le chef du parti travailliste d'alors, le grand parti d'opposition face à Margaret Thatcher, la dame de fer qui depuis 3 ans dirige le Royaume-Uni.
Brighton, depuis le congrès du parti travailliste, Michael Foote vient à notre studio. Quelle est sa stratégie pour battre Margaret Thatcher? Michael Foote, êtes-vous toujours le même socialiste passionné? Ou vous êtes plus dans le compromis?
Je pense que les gens devront en juger.
Le parti maintenant défend le désarmement unilatéral. Si vous devenez Premier ministre, vous désarmerez unilatéralement? Vous êtes toujours unilatéraliste?
Oui, tout à fait. Et j'ai été très clair. Selon moi, cela représente la bonne politique étrangère pour notre pays, pour une approche socialiste de ces sujets. Et bien sûr, nous mènerons cette politique, mais seulement avec d'autres pays.
Si l'on en croit le journaliste anglais Ben McIntyre, auteur du livre « L'espion et le traître » consacré à Gordievski, Michael Foote a été dans le passé, non pas un espion, mais un agent d'influence du KGB, régulièrement rémunéré pour donner des renseignements et pour influencer la ligne du Labour. Toujours, selon Ben McIntyre, cette information, potentiellement explosive pour la Grande-Bretagne, est alors gardée secrète. Mais il est décidé que si Michael Foote venait à gagner les élections en 1983, il serait bon d'avertir Sa Majesté la Reine. Mais en 1983, la Dame de Fer remporte haut la main les élections et le Labour essuie le pire échec de son histoire. De son côté, Michael Foote, jusqu'à sa mort, niera toujours avoir été un agent du KGB. Mais c'est en 1983 qu'Oleg Gordievski va jouer un rôle décisif, historique même. Alors que les années 70 ont été celles d'une relative détente entre l'Est et l'Ouest, le début des années 80 est marqué par un regain de tension. En juillet 1980 déjà, le climat était électrique à l'ouverture des JO de Moscou.
Regardez cette séquence diffusée hier par la télévision soviétique. Elle veut nous démontrer que tous les touristes américains sont des agents de la CIA.
Voici ce qu'on a montré aux téléspectateurs soviétiques, de faux touristes présentés comme de vrais agents de la CIA et qui dissimulent dans leurs vêtements de la littérature subversive et des armes. Des boîtes de produits divers. Attention, dit Moscou, ces boîtes ne sont pas inoffensives. La CIA peut y cacher des matières très dangereuses pour la sécurité civile grâce à l'argent des industriels américains. Ces images montreraient comment la CIA recrute en Grande-Bretagne des jeunes gens parlant russe pour les infiltrer à l'occasion des Jeux de Moscou. Autre agent de la CIA dénoncé par Moscou, les correspondants de presse américains en Union soviétique dont la télévision a montré la liste.
Enfin, la télévision soviétique s'en est pris aux hommes politiques américains, responsables, selon elle, de déchaîner l'hystérie anti-soviétique.
France Inter en Amérique. Ronald Reagan à la Maison-Blanche, c'est un événement qui concerne le monde entier.
L'arrivée au pouvoir aux États-Unis du très conservateur Ronald Reagan en 1981 et celle l'année suivante à Moscou de Youri Andropov, l'ex-patron du KGB, ne vont pas calmer le jeu. En 1983, les deux superpuissances se lancent dans une inquiétante surenchère, à grand recours de déclarations belliqueuses, le fameux discours de Reagan fustigeant l'empire du mal, mais aussi de déploiement de missiles.
Passons d'abord à un dossier qui est sans doute pour tous les pays concernés dont le nôtre, le dossier crucial de cette année 83, le dossier du désarmement et des euromissiles. Vous savez que c'est cette année que l'OTAN doit installer en Europe une nouvelle génération d'euromissiles pour équilibrer en principe la force nucléaire dont dispose Moscou sur le théâtre européen. Le numéro 1 soviétique Youri Andropov serait prêt à une nouvelle formule de compromis, tandis qu'à Washington, le président Reagan sacrifie son principal négociateur sur les questions de désarmement à l'aile la plus dure de son parti, la plus intransigeante vis-à-vis de Moscou.
C'est alors qu'Oleg Gordievsky délivre au MI6 une information stupéfiante. Andropov est persuadé que les Américains préparent activement une attaque nucléaire contre l'URSS. Le MI6 n'en croit pas ses oreilles. Quoi, la terrible Union soviétique serait en proie à une paranoïa dévorante, ce qui représenterait un signe évident de faiblesse. Au début, les Anglais n'y croient pas. Mais au fil des mois, Gordievsky persiste. Les Soviétiques ont peur. Et l'agent double révèle aux Anglais l'existence de l'opération Ryan, une des plus vastes et des plus délirantes opérations d'espionnage jamais ordonnées par Moscou. Les stations du KGB du monde entier sont mises sur le pied de guerre pour favoriser les mouvements pacifistes et pour déjouer un imaginaire complot de l'Ouest. À Londres, les agents du KGB sont sommés de compter les allées et venues de Margaret Thatcher pour voir si elle rend plus souvent visite à la reine, compter le nombre de lumières allumées la nuit dans les ministères, signe d'une effervescence au gouvernement, vérifier l'éventuelle augmentation du nombre de lits d'hôpitaux, des réserves de sang, du nombre de bœufs abattus dans les abattoirs, autant de signes supposés de la préparation d'une attaque. Mais le moment où tout a failli basculer entre l'Est et l'Ouest, c'est à l'automne 1983 avec une succession d'accidents. Antenne 2, le 2 septembre 1983.
Indignation et condamnation dans le monde entier après la tragédie de l'avion sud-coréen abattu hier par des chasseurs soviétiques. C'est un acte de terrorisme, déclare le président Reagan. Pour Moscou, l'appareil se livrait à des opérations d'espionnage.
Une liste de noms, affichée comme un martyrologue par la compagnie coréenne. 269 noms, 269 personnes désintégrées en plein ciel, abattues froidement par les soviétiques. Trois missiles qui ont transformé la quiétude d'un vol sans histoire en horreur pure.
Reagan dénonce un crime contre l'humanité et Andropov, un acte provocateur des États-Unis. Deux mois plus tard, le risque d'une guerre augmente encore d'un cran quand l'OTAN débute l'installation en Europe de l'Ouest des premiers missiles Pershing destinés à riposter à la menace virtuelle des SS-20 soviétiques positionnés de l'autre côté du rideau de fer. Mais surtout, ce qui va susciter la terreur de Moscou, c'est le vaste exercice militaire Able Archer que l'OTAN lance en novembre 83. 40 000 hommes déployés en Europe pour une sorte de répétition générale en cas de conflit. Pour les soviétiques, il ne peut s'agir que d'une ruse. En France, l'inquiétude est si grande que le 16 novembre 1983, à la télévision, l'émission politique « L'heure de vérité » invite le président de la République pour répondre aux Français.
Bonsoir et bienvenue dans ce studio de « L'heure de vérité » où nous accueillons ce soir M. François Mitterrand. Est-ce qu'on a déjà une première tendance sur les questions ?
Il y a un thème qui domine incontestablement, c'est celui de la défense. Et un mot qui revient constamment, c'est le mot de guerre. Les Français se demandent s'il y aura une troisième guerre mondiale.
Les risques de guerre. Je pense que l'opinion française a des raisons tout à fait fondées de s'inquiéter.
La troisième guerre mondiale n'a pas eu lieu. A posteriori, pour beaucoup d'observateurs, le rôle de l'espion Gordievski a été décisif. Quand il a affirmé que les Soviétiques, par peur d'une attaque de l'OTAN, étaient prêts eux-mêmes à lancer une frappe préventive, le MI6, face à l'ampleur du danger, a prévenu son homologue américain, la CIA, qui en a informé Ronald Reagan. Le président des États-Unis et Margaret Thatcher se sont alors employés à calmer le jeu avec les Soviétiques. Grâce à cet espion anonyme, l'Ouest commence à comprendre que le fameux Empire du Mal est en réalité un colosse aux pieds d'argile. Pendant ce temps, loin de la lumière, Oleg Gordievski poursuit sa vie étrange et angoissante d'agent double, toujours à la merci d'une dénonciation, continuant à mentir à sa femme et à ses enfants. En avril 1985, grande nouvelle, Gordievski est nommé directeur du KGB de Londres. Mais le 16 mai, un télégramme le rappelle d'urgence à Moscou. Son sang se glace. Est-ce un piège ? A-t-il été démasqué ? Après de longues heures de discussion avec le MI6, il décide finalement de partir. Le 19 mai 1985, Gordievski dit au revoir à sa famille et la peur au ventre s'envole pour Moscou. À peine est-il arrivé à son domicile de la perspective Lénine qu'il comprend que ses soupçons étaient justes. Les trois verrous de sa porte ont été tirés alors que lui et sa femme n'utilisent jamais le troisième. Preuve que l'appartement a été visité et probablement mis sur écoute. Pour Oleg Gordievski, assailli par le doute et la peur, c'est le début d'une terrifiante descente aux enfers. Va-t-il terminer abattu d'une balle dans la tête ? Les premières semaines, pourtant, il ne se passe rien. Jusqu'au jour où il est convié à déjeuner avec ses deux chefs du KGB. Pendant des heures de ce qui est en fait un interrogatoire, Gordievski va lutter contre la drogue qu'on a versée dans son cognac.
Nous savons que vous travaillez pour les Britanniques.
C'est faux.
Nous avons des preuves. Avouez.
Je n'ai rien à avouer.
Gordievski réussit à ne rien avouer, ce qui le sauve d'une exécution immédiate. Pendant ce temps à Londres, le MI6, sans nouvelles de son agent, met en alerte les services secrets de l'ambassade britannique à Moscou au cas où il faudrait activer l'opération Pimlico. D'autant qu'ils viennent de l'apprendre, la femme d'Oleg et ses enfants ont été rappelés eux aussi à Moscou. La preuve que leur agent a bel et bien été démasqué. Gordievski, qui s'attend d'un jour à l'autre à être arrêté ou exécuté, décide qu'il doit fuir, sans sa famille. Le choix est déchirant, mais partir à quatre est impossible, et surtout, il n'est pas sûr que Leïla, son épouse, serait d'accord. Pire, redoutant qu'elle ne le dénonce, il ne va même pas l'informer de sa fuite. En juillet, Leïla et les enfants partent en vacances à la campagne. Gordievski, le cœur brisé, leur dit au revoir, comme si de rien n'était, sans savoir s'il les reverra un jour. Désormais seul, l'homme traqué prépare son évasion. Première étape, alerter le MI6. Comme prévu dans le plan d'exfiltration, le mardi suivant, 16 juillet, après un long périple pour semer d'éventuels suiveurs, il se rend au rendez-vous fixé à 19h30 à la boulangerie. Pendant toutes ces années, les agents anglais n'avaient manqué aucun rendez-vous, vérifiant tous les mardis à 19h30 si un homme avec une casquette grise et un sac Safeway n'attendait pas devant la boboulangerie. Mais ce mardi 16 juillet, l'agent anglais a bien failli louper le rendez-vous. Arrivé en retard, il aperçoit finalement Gordievski et en signe de reconnaissance, sort un Mars de sa poche et se met à en déchirer ostensiblement l'emballage. Leurs regards se croisent, le signal d'alerte est lancé, le MI6 doit activer d'urgence l'opération Pimlico. Vendredi 19 juillet. À 16h, Gordievski enfile son pantalon de sport, son sweatshirt et ses vieilles chaussures marron et un sac en plastique presque vide à la main, quitte son domicile pour toujours. Le faux jogger n'a que 90 minutes pour semer les hommes du KGB qui le guettent en bas, gagner la gare et sauter dans le train de nuit pour Leningrad. Arrivé au petit matin, il prend un autre train pour Zelenogorsk, puis un bus pour Vyborg. De là, en faisant du stop, il doit prendre la route pour la frontière finlandaise et s'arrêter au kilomètre 836 et attendre dans une clairière. Dans la nuit, le chef de la station du MI6 en URSS et sa femme ont quitté Moscou dans leur voiture diplomatique. Pour ne pas éveiller les soupçons du KGB qui les suit en permanence, ils ont emmené leur bébé. Officiellement, la famille anglaise part en week-end en Finlande. En réalité, ils ont rendez-vous avec Gordievski. Arrivé au kilomètre 836, comme prévu, ils récupèrent le fuyard, sale et épuisé, qui se glisse dans le coffre de la voiture. 20 minutes plus tard, au poste frontière, c'est l'instant de vérité quand des chiens renifleurs s'approchent de la voiture. Le conducteur, alors, sort un paquet de chips à l'oignon, bien anglais et bien odorant, tandis que la passagère change la couche du bébé, bien odorante aussi, sur le coffre arrière. La voiture redémarre enfin. Quelques instants plus tard, depuis le fond du coffre, Gordievski, qui vient de vivre la peur de sa vie, entend une musique de Sibelius, le grand compositeur finlandais, s'échapper de l'autoradio. La frontière est passée, il est enfin libre. Depuis son évasion en 1985, Oleg Gordievski vit en Angleterre. Sa femme et ses enfants ont pu le rejoindre 6 ans plus tard, mais le mariage n'a pas résisté à l'épreuve. L'espion qui a permis au monde d'échapper à une troisième guerre mondiale est reçu avec les honneurs à la Maison Blanche et en Angleterre, est nommé par la reine commandant de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges, la même distinction reçue par James Bond. Ce n'est qu'en 1994 qu'Oleg Gordievski apprend l'identité de celui qu'il a dénoncé au KGB en mai 1985.
Homme de l'ombre, Aldrich Ames se serait sans doute bien passé de cette publicité. Les caméras étaient là quand les policiers du FBI l'ont arrêté en compagnie de sa femme. Après 31 ans au service de la CIA, il a été inculpé d'espionnage, puis incarcéré. Depuis 10 mois, les enquêteurs ont, semble-t-il, accumulé les preuves contre lui. C'est en 85 que le KGB l'aurait soudoyé. Une recrue de choix, Ames occupait alors à la CIA le poste de chef du contre-espionnage chargé des soviétiques. En 9 ans, l'agent double aurait transmis à l'URSS puis à la Russie des rapports secrets et des listes d'agents travaillant en Union soviétique pour le compte des services américains. Il faudra sans doute plusieurs années pour évaluer les dommages qu'il a causés. Motivation d'Ames, l'argent. En échange des renseignements communiqués, l'espion aurait touché au total 1,5 million de dollars. C'est ce qui a attiré l'attention de la CIA et du FBI. À force d'empocher des gains, l'agent double a fini par les dépenser. Son train de vie est devenu disproportionné par rapport à son salaire de fonctionnaire.
Aldrich Ames qui sera condamné à la prison à perpétuité. Oleg Gordievski, lui, qui n'a jamais demandé d'argent, vit toujours sous un faux nom et ne peut sortir de chez lui sans garde du corps. Une menace bien réelle, puisqu'en 2008, l'ex-espion est victime d'une tentative d'empoisonnement. Car si l'Union soviétique a disparu, l'agent double est toujours condamné à mort par contumace par Moscou. Oleg Gordievski est un homme libre, mais captif. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.